Bonjour à vous tous. Comment réfléchir ensemble à la signification de cette présence de Dieu au cœur de l'histoire des hommes et au cœur de notre histoire à chacun? Comment réfléchir à cette présence et comment faire en sorte que cette réflexion nous soit bénéfique pour notre vie de foi, pour notre approfondissement, pour notre perception de la présence du Seigneur au cœur de notre vie. Et bien évidemment, puisque notre réflexion est orientée sur le mariage, je me suis dit, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais envie de réfléchir avec vous sur le mystère pascal et le mariage. Que nous apporte la mort et la résurrection du Christ? Quelle est son action? En quoi fait-il évoluer? En quoi modifie-t-il de façon radicale la relation entre l'homme et la femme dans le mariage? Voilà, c'est tout ceci que j'avais envie de partager avec vous, de réfléchir, parce que l'on peut parfois se demander comment dans les petits événements de la vie, comment arrive à se glisser la puissance du mystère pascal. Voilà, donc c'est ce que je voudrais aujourd'hui vous proposer, quelques petites pistes comme d'habitude, puisque bien évidemment, ce ne sont jamais que des petits cailloux que j'espère semer pour vous aider à ouvrir, surtout à ouvrir la Bible pour goûter la parole de Dieu et pour comprendre à quel point cette parole nous peut jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Donc, nous allons bien évidemment commencer par relire quelques textes de la Bible, et ceux qui me connaissent un peu savent à quel point je reviens systématiquement au même texte, parce que leur richesse est infinie, je le dis à chaque fois. Et donc, je vous propose de relire ensemble les premiers chapitres de la Bible, ces fameux chapitres de la Genèse. Alors, à vrai dire, nous n'allons pas relire les premiers chapitres. Je vais juste vous parler de certains détails que l'on ne relève pas forcément lorsque l'on entend le texte. Hein. Nous l'avons d'ailleurs entendu lors de la vigile pascale. Hein. Ce sont des textes que nous connaissons, que nous pensons connaître. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, je voulais tirer avec vous un petit fil de ces textes. Je ne veux pas revenir en détail sur toute la création, hein, cette création issue de la parole de Dieu qui est créatrice, mais je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Tout au long du processus, lorsque l'on lit le texte, Dieu dit que la terre et le ciel soient séparés, Dieu dit qu'il y ait des astres, Dieu dit, voilà, il y a toujours cette espèce de refrain comme un chant, hein, qui revient pour dire à quel point, comment est-ce que la parole appelle le monde à la vie, et ce processus d'appel à la vie de notre monde, nous voyons combien cette parole de Dieu est présente. Et ce qui me frappe et ce que je voudrais souligner avec vous, c'est que lorsque le texte évoque la création de l'homme, eh bien, on a l'impression qu'il y a comme une discrétion de cette puissance divine qui est là comme pour s'effacer devant l'homme, devant sa création. Discrétion dans laquelle, moi, je vois quelque chose de l'ordre de l'offrande que Dieu fait à l'homme de la liberté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends le texte tel que nous le connaissons bien, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance », et ensuite, Dieu crée à l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous sur ces deux versets pour en tirer quelque chose d'abord sur la façon dont Dieu crée l'homme de façon tout à fait libre. Et Dieu le crée libre et avec une liberté qui est sacrée, qui est absolue, parce que c'est un être qui est capable de connaître et d'aimer Dieu. Donc cet homme est créé libre. Et il est créé libre Il est créé à l'image de Dieu. Cela va ensemble. Il est créé libre parce qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est créé comme un être qui est donc, comme je vous l'ai dit, capable d'aimer et de connaître Dieu, mais il est aussi créé capable d'aimer l'autre. Il est capable d'aimer l'autre, quelle qu'elle soit. Il est capable d'aimer toute personne du même amour qu'est l'amour divin. Hein. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire capable d'aimer comme lui aime. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est que l'homme peut aimer. L'homme a été créé avec la capacité d'aimer comme Dieu aime. Il a cette capacité qui est inscrite au plus profond de son être. Mais vous voyez bien que le texte ne nous dit pas que cela, parce que si je le prends dans son ensemble, le texte nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà la première affirmation de Dieu. Et le texte continue en disant, et Dieu fit l'homme à son image. Et il manque quelque chose dans le texte, ce n'est pas une étourderie du rédacteur, il faut que vous en soyez convaincus. Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais vous voyez que la ressemblance qui était affirmée au début, Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », eh bien lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le crée, et le texte en français nous dit « homme et femme, il les créa ». Vous voyez qu'il manque quelque chose, hein? Il manque dans cette idée de ressemblance qui est présente dans la première partie, dans le premier verset. C'est présent. Dieu fait l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Eh bien, cette ressemblance, elle n'est plus présente lorsqu'il y a l'affirmation de la création. Mais que s'est-il passé? Alors, il y a une première réponse qui se trouve dans le texte lui-même, puisque le texte dit, Dieu crée l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et donc là, on se dit, mais Dieu crée l'homme à son image, il les crée homme et femme. Est-ce que ça veut dire que Dieu est un homme et une femme? La question, vous voyez bien, n'a pas de sens. Ce qui veut dire qu'être créé à l'image de Dieu n'est pas tout d'abord une image simple, puisque Dieu est un esprit, Dieu n'est pas un corps, il n'est pas mâle, il n'est ni homme ni femme. Ceci est la première chose. Il faut comprendre que déjà, peut-être vous donner un premier élément dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'il y a une partie de la solution qui se trouve dans le fait que la traduction du texte est un peu trompeuse, parce que dans le texte original en hébreu, il n'est pas dit Dieu les crée, homme et femme, il les créa. Il dit Dieu, mâle et femelle. Ils sont créés à l'image de Dieu et ils sont créés mâle et femelle. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous a dit quelque chose d'essentiel, c'est que l'humanité est image de Dieu, on en est sûr, elle est image de Dieu, mais tout en image de Dieu, l'humanité porte quelque chose de différent en elle qui, d'une certaine façon, relève un peu de ce que l'on pourrait appeler l'animalité. Ainsi, pour l'homme, être image de Dieu, être capable de connaître et d'aimer Dieu, eh bien, ne le dispense pas de cette dimension que j'appellerais d'animalité. C'est-à-dire que être image de Dieu ne dispense pas l'homme et la femme d'avoir à apprivoiser ce qui en chacun de nous, parce que nous sommes des êtres corporels, ce qui en chacun de nous relève de l'animal, relève de l'animalité. On pourrait évoquer l'instinct, la volonté de force, toutes ces dimensions qui sont liées à notre état corporel. Et donc, on pourrait dire, finalement, que l'une des raisons pour lesquelles le terme de ressemblance n'est pas répété, c'est que dans la création de l'humanité, qui est homme et femme, qui est, excusez-moi, qui est image de Dieu, ceci est sûr, ceci est certain, l'homme et la femme sont créés image de Dieu, eh bien, il y a encore quelque chose que l'humanité est appelée à accomplir pour être en même temps image de Dieu et en même temps à la ressemblance de Dieu tout en étant mâle et femelle. Eh bien, on pourrait dire, on pourrait méditer sur le fait que il manque à l'humanité comme une prise en compte, d'une certaine façon, de sa réalité, une prise en compte de sa réalité, de ses instincts, de ses désirs, de sa volonté, d'une certaine façon, de toutes les exigences qu'implique une vie corporelle. Alors, il faut que je vous précise que cette question de cette réflexion sur le texte, bien évidemment, a interrogé très fortement les plus grands théologiens, les pères de l'Église, et je reste très, très, très humble par rapport à tout ce qui a pu être réfléchi sur la question. Mon propos est d'attirer juste votre attention sur cet apparent oubli, hein, de Dieu qui dit faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qui le fait. Dieu crée l'homme à son image, ce n'est pas Dieu qui parle d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui constate, qui dit, eh bien voilà, Dieu crée l'homme à son image, il y a une description. Il est créé à l'image de Dieu en tant qu'homme et femme, mais quelle est cette ressemblance qui lui manque? Je propose de réfléchir sur le fait que cette ressemblance est encore à développer. Quelque chose n'était pas complet lorsque cet homme a été créé, bien que la création de Dieu soit bien évidemment bonne, donc parfaite et digne de bénédiction. Voilà, finalement, pour être vraiment à la ressemblance de Dieu, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut que l'humanité découvre un grand secret qui est celui, à mon sens, qui est celui de l'amour dans sa définition la plus haute. Pour être parfaitement ressemblance de Dieu, l'humanité qui est image de Dieu doit découvrir que son humanité n'est parfaite que lorsqu'il entre dans ce grand secret d'amour, dans ce qu'il a de plus haut, de plus parfait. Qui est l'amour d'aimer comme il en est capable Dieu et d'aimer celui ou celle qui est totalement différent, que ce soit même dans le cadre du mariage ou dans le cadre de quelques relations que ce soit. Eh bien, l'humanité est appelée à avancer et à faire la découverte de cet amour dans ce qu'il a de plus haut, amour de Dieu et amour de l'autre. Je vous ai parlé plusieurs fois aussi de cette étrange parole de Dieu. Finalement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Et là, pour le coup, toute la tradition nous dit que ce « faisons », ce pluriel, est comme une évocation mystérieuse du dialogue trinitaire, hein, qui est un dialogue incessant et infini d'amour entre Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. L'amour de Dieu Trinité, hein, est un mouvement constant entre les trois personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, voilà en quoi notre ressemblance est parfaite et dans ce modèle qui nous est donné d'un amour à l'image de l'amour trinitaire pour aimer notre prochain. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous portons en nous cette capacité d'amour à l'image de l'amour trinitaire. Il s'agit là, dans ces versets, dans ces premiers versets, d'un appel universel de l'homme à aimer comme Dieu aime. Et cet appel, donc, universel concerne tout homme et bien sûr concerne le couple de façon particulière. Mais avançons un petit peu plus, parce que la suite de l'histoire, vous la connaissez comme moi, cette suite nous apprend que très vite l'humanité va refuser cet apprentissage de l'amour à l'image de l'amour trinitaire. Cette humanité va va refuser de se réfugier dans cet appel à l'amour, dans cet appel à la confiance, pour préférer l'aventure terrible et mortifère de l'égoïsme et de l'orgueil. Nous avons là, dans ces quelques versets que l'on semble connaître, nous voyons que à chaque fois ces versets nous disent quelque chose de différent, quelque chose de particulier sur notre condition humaine, sur notre relation à Dieu, l'amour créateur, sur la façon dont l'amour créateur de Dieu s'est déployé sur sa création de façon générale et sur l'homme de façon particulière qui est ce que Dieu aime totalement puisqu'il le fait à son image et qu'il l'invite à être à sa ressemblance. Voilà, je vous propose quelques minutes d'interlude et nous nous retrouvons dans un instant. Et alors, vous voyez, quelque chose d'un petit peu mystérieux, je vais vous faire une confidence. Lorsque je prépare cette émission, Jérôme, qui est avec moi et qui s'occupe des interludes, qui met la musique, Jérôme ne sait jamais de quoi je vais parler. Et c'est très mystérieux parce que ce n'est pas la première fois que l'interlude musical correspond à ce que je vais dire par la suite. Et je trouve que c'est toujours un petit clin d'œil qui est du Seigneur, qui fait qu'effectivement, l'interlude me mettait d'évoquer avec vous cette liberté. Le pli de cette liberté, c'était justement ce dont je voulais vous parler. Voilà, Freedom, ce chanson, ce Negro Spiritual, qui parle de la liberté. Et oui, le prix de l'amour de Dieu, c'est la liberté. Voilà, l'amour que Dieu a pour nous a été si grand et si mystérieux qu'il est allé jusqu'à nous permettre de choisir de faire le mal. Et bien sûr que notre liberté va jusqu'au bout. Mais ce qui est encore plus mystérieux et plus extraordinaire, c'est que notre liberté nous permet aussi de choisir le bien. Et lorsque nous choisissons le Seigneur, lorsque nous choisissons de faire le bien, je crois que j'insiste là-dessus parce que je pense que ce n'est pas, enfin, je n'ai pas l'impression qu'on le dit suffisamment. Lorsque l'homme fait en toute liberté le choix de l'amour de Dieu, lorsqu'il se donne au Seigneur, lorsqu'il ouvre son cœur à la grâce, je crois qu'il faut vraiment dire que chaque fois cela fait la joie du ciel. Je crois que chaque fois on le dit, d'ailleurs le Christ nous le dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur sauvé Je crois que chaque fois, puisque nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous appelés à être sauvés, chaque fois que nous ouvrons notre cœur, que notre liberté nous fait ouvrir notre cœur à la présence du Seigneur, lorsque notre liberté est un mouvement d'accueil du Seigneur, eh bien la joie dans le ciel est immense parce que Dieu lui-même voit sa création accomplir jusqu'au bout sa vocation de liberté qui est de vivre dans l'amour de Dieu. Le choix que nous faisons est le résultat alors de tout notre être. Voilà, donc je crois que ceci est très important. Et cette liberté, elle nous permet de laisser de côté cette question souvent que l'on entend, mais pourquoi est-ce que Dieu met le mal mais lorsque l'on dit ça, il faut bien comprendre que l'on parle du mal, mais que nous subissons de la part des autres ou qui est à l'œuvre dans le monde. Mais c'est aussi le mal que nous faisons, hein, parce que le mal, il n'est pas que l'acte des autres. Il est aussi, nous participons d'une façon ou d'une autre à ce mal. Eh bien, cette question-là n'a plus de sens. Ce qui est le plus important, c'est que nous sommes créés avec cette liberté d'accomplir notre vocation éternelle qui est de nous livrer à l'amour. Dieu ne veut pas le mal. Dieu va jusqu'au bout de son amour, même si le prix à payer, d'une certaine façon, est de voir l'homme se détourner de lui et choisir le mal au lieu de choisir le Seigneur lui-même. Donc, voilà, notre liberté, elle permet d'accomplir notre vocation, cette vocation éternelle, qui est de nous livrer à l'amour. Et il y a un théologien, le père Matthäus, qui a beaucoup travaillé cette question et qui explique et qui affirme que finalement, la vocation de l'homme, finalement, la liberté, là où la liberté de l'homme, là où sa vocation se déploie de la façon la plus complète, eh bien, c'est la vocation du don. L'homme s'accomplit dans le don. L'homme s'accomplit dans l'acte de donner. Hein, et bien évidemment, tout le monde a à l'esprit ce cantique que nous chantons, aimer, c'est tout donner, qui est vraiment le cœur de l'amour. L'amour, c'est donner. Donc, l'humanité est créée pour aimer Dieu. Elle est créée pour aimer l'autre à la façon de Dieu. Mais tout cela implique, je vais revenir avec cette, je vais un peu fermer cette parenthèse sur la liberté, parce que je voulais vraiment insister sur cette capacité de l'homme à aimer et à aimer l'autre à la façon de Dieu. Mais alors, pour nous, eh bien, cela implique que si aimer, c'est donner, eh bien, c'est toute notre personne qui est impliquée dans cet acte de donner. C'est notre corps, finalement, qui est au service de cet amour. Et voilà donc pourquoi j'ai fait cette parenthèse. C'est parce que cette réflexion nous amène à réfléchir sur le corps, sur notre corps. Hein. Nous avons été créés mâle et femelle, homme et femme, avec cette part d'animalité appelée à grandir et à croître pour de plus en plus devenir et être à la ressemblance de Dieu. Eh bien, c'est réellement dans ce corps, puisque nous ne sommes pas des esprits, c'est réellement dans ce corps, dans cette dimension un peu d'animalité que nous sommes appelés à nous conformer à Dieu. C'est le corps qui est le lieu où nous pouvons exprimer ce que nous sommes réellement et profondément. Et vous voyez bien, comme dans le mariage, cette affirmation a de l'importance, puisque dans le mariage, c'est par nos corps que nous exprimons ce que nous sommes profondément, ce que nous ressentons, mais surtout, c'est par notre corps et grâce à notre corps que nous pouvons aimer et que nous pouvons donner. L'amour et le don ne peuvent passer que par le corps. Donner, hein, mettre mot, pardon, de notre vie, C'est extrêmement clair. C'est le don qui est le maître mot de toute notre vie, de notre vie. Le mariage, bien évidemment, mais une petite parenthèse pour dire que c'est le maître mot aussi de la vie dans tous les autres domaines. Donner et ne pas prendre, offrir et ne rien garder pour soi. Voilà quelle est finalement l'invitation qui ferait que nous puissions accomplir cette prophétie des premiers versets de la Genèse qui ferait de nous une image et une ressemblance de Dieu. Voilà donc, rien de ce que nous vivons avec nos corps d'hommes et de femmes n'est étranger au plan de Dieu. Hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, il est vraiment essentiel de comprendre que c'est dans le mariage que nos corps sont des instruments de la sainteté, parce qu'ils participent. Quelque part, ils participent au plan divin de Dieu sur l'homme. Hein? Nous sommes images et aussi ressemblance. Et ce n'est pas donc en tant qu'esprit que nous sommes appelés à la sainteté dans le mariage, mais c'est en tant que créature, c'est en tant que créature appelée à la plénitude, en tant que femme, en tant qu'homme, donnée l'un à l'autre dans le mariage. Alors, vous me direz, mais peut-être que vous allez penser que nous nous sommes bien éloignés de mon introduction, qui est la joie de Pâques dans notre vie. Voilà, j'ai notre rencontre d'aujourd'hui, je l'ai introduite sur cette joie de Pâques, et puis j'ai suggéré que cette joie de Pâques pouvait nous éclairer dans notre réflexion sur les mariages. En quoi donc la mort et la résurrection du Christ, à laquelle nous croyons de tout notre cœur, en quoi va-t-elle influer, en quoi va-t-elle transfigurer notre vie de couple? Eh bien, je dirais que, à partir de ce que nous venons d'évoquer ensemble, et je le répète et je le répète à chaque fois, il ne faut jamais oublier que le salut du Christ, ce n'est pas une idée. Il faut vraiment faire attention à cela. Dire « je suis sauvé par le Christ », ce n'est pas une affirmation abstraite, c'est une réalité profonde, qui guérit, qui purifie, qui transforme tout ce qui en nous relève encore de l'instinct et de l'animalité. Tout notre être est totalement guéri et transformé et transfiguré par le salut donné par le Christ. Nous savons bien que le Christ est mort et ressuscité, que cette mort et cette résurrection nous rend notre dignité de fils et de filles de Dieu, hein, lorsque l'on baptise quelqu'un. Dans ma paroisse, nous chantons tous, je pense que tout le monde le fait, « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus ». Nous sommes restaurés dans cette dignité d'enfant de Dieu, de frère du Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose de plus, comme le dit la prière eucharistique, nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, nous sommes unis et nous y sommes unis avec nos corps qui sont unis au corps de Jésus dans l'Eucharistie. Donc vous voyez comme tout ceci est tellement, tellement loin d'idées abstraites. Nous sommes restaurés en tant qu'enfants de Dieu par la mort et la résurrection du Christ, par le baptême, et nous sommes unis au Christ avec nos corps, unis au corps du Christ de la façon la plus étroite possible dans l'Eucharistie. Nous sommes alors hissés, montés, hein, hissés à un niveau de dignité qui est inimaginable, qui est invraisemblable pour toute personne qui ne croit pas. Vous savez, saint Paul disait que notre foi était une folie pour les sages. Lorsque l'on est imbu de trop de philosophie, de raisonnement, eh bien, effectivement, nous voyons des gens qui disent « mais vous êtes fous de croire en quelque chose d'aussi incroyable ». Et moi, je dirais de croire en quelque chose d'aussi merveilleux, d'aussi stupéfiant que cette union de nos corps unis au corps du Seigneur dans l'Eucharistie. Le baptême nous a lavés de notre péché. Le baptême nous donne la capacité de vivre de la vie même de Dieu. Et c'est par cette capacité que nous a donné le baptême, par ce sacrement, que, comme tous les autres sacrements, que le sacrement de mariage nous marque d'un signe et qui est le signe de l'amour de Dieu. Donc, de la même façon que nous sommes unis au Christ de façon intime dans l'Eucharistie, eh bien, le sacrement de mariage est un signe qui donc, nous marque de l'amour de Dieu, hein, puisque c'est ce que nous disent les bénédictions, mais surtout, le sacrement du mariage renouvelle en notre esprit, en notre être complet, en notre esprit, en nos corps, renouvelle notre capacité à vivre un amour humain, à vivre un amour conjugal qui est alors comme totalement irrigué de l'Esprit-Saint. Et cet amour est irrigué, transfiguré de l'Esprit-Saint qui donne la capacité de voir toute chose autrement de ce que notre simple humanité nous permet de voir. Ainsi, la relation conjugale, l'amour humain dans le sacrement du mariage est lui aussi tout aussi resplendissant de la joie pascale. Que cet amour humain, il est né du bain nouveau, du baptême. Il est transfiguré, il est ressuscité par le mystère pascal. Et lorsque nous célébrons la joie pascale, nous célébrons aussi la transfiguration de cette dimension extraordinaire de la relation d'amour dans le mariage. Alors, bien évidemment, tout comme le baptême, hein, nous ne sommes, il ne s'agit ici ni de magie, ni de contes de fées, parce que nous sommes, nous tous qui sommes baptisés, qui nous savons enfants de Dieu, qui nous savons restaurés dans notre dignité, eh bien, nous savons bien que ce baptême n'élimine pas en nous la tentation du mal, la tentation du repli, la tentation de l'égoïsme, tous ces appels à l'égoïsme et au mal sont toujours là. Le baptême, en apparence, ne nous débarrasse pas de tout cela. Et saint Augustin nous explique que nous sommes, oui, toujours comme soumis à l'attirance du péché. Nous sommes toujours tentés, mais attention, parce que dans le même temps, saint Augustin est comme l'Église après lui. Eh bien, il affirme que l'amour de Dieu accompli dans le mystère pascal est bien plus fort, puisque cette force s'est exprimée dans la mort et la résurrection du Christ, et que c'est cette mort et cette résurrection du Christ et ce mystère pascal qui nous libère de l'esclavage, qui nous libère et qui nous permet de nous libérer de cette tentation, qui nous permet de ne pas être esclaves de ces tentations de péché et de mal. Donc voilà, saint Augustin nous explique, nous sommes créés image de Dieu, et comme le dit un théologien, même si cette image est brouillée, eh bien, elle est toujours là et elle est restaurée par l'eau du baptême. Donc nous sommes restaurés par l'eau du baptême et l'amour humain qui fait partie de l'être, eh bien, est lui aussi totalement transfiguré par le mystère pascal. L'amour humain, il n'est plus seulement attirance, il n'est plus seulement sentiment amoureux, il est bien autre chose. Et ce que saint Paul nous dit, il nous le dit dans une de ses lettres qui est si célèbre, si mal comprise, hein, puisque saint Paul ne nous dit rien d'autre que ce que je vous ai dit, à savoir que l'homme et la femme sont libérés par l'amour du Christ, ils sont libérés de la tentation d'un amour égoïste, d'un amour qui serait renfermé sur lui-même et qui ne serait là que pour profiter de l'autre. Mais l'homme et la femme donc sont libérés de cet amour et ils sont invités à entrer l'amour dans le mariage. Ils sont invités à participer au mystère même de Dieu, puisque saint Paul nous dit que le lien, l'amour entre l'homme et la femme est fortifié, il est magnifié, il est transfiguré jusqu'à porter en lui les mêmes caractéristiques que l'amour que le Christ a pour son Église. Arrêtons-nous pour méditer sur le Christ, à quel point il a aimé son Église, à quel point il a aimé l'humanité jusqu'à se donner et s'abandonner. Eh bien, saint Paul nous dit, voilà, cet amour immense, cet amour infini, eh bien, il est donné à travers le sacrement de mariage, il est donné d'être vécu à l'homme et la femme. Et l'homme et la femme peuvent s'aimer du même amour que le Christ aime l'Église. Ils sont capables, cet homme et cette femme qui sont mariés, ils sont capables de manifester la puissance de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un grand mystère, c'est bien ce que saint Paul nous dit lorsqu'il finit cette méditation. Il dit « Ceci est un grand mystère » et c'est à comprendre comme un cri d'admiration de l'apôtre lorsqu'il médite cette question, puisque comparer le lien du mariage à la relation qui unit Dieu aux hommes et qui unit le Christ à l'Église, eh bien, vous reconnaîtrez avec moi que c'est vraiment un honneur extraordinaire. Et puis, c'est aussi une grande consolation, une grande aide que l'on n'a jamais fini de comprendre et de méditer dans le mariage. Voilà, donc, avant de nous quitter, je voulais vous inviter encore, nous tous qui sommes encore pleins de la joie pascale, eh bien, soyons vraiment dans l'assurance que toute union devant le Seigneur porte en elle cette semence de croissance, de développement, d'embellissement, et que cette semence, elle est portée à son accomplissement total dans le sacrement de mariage tel que le Seigneur nous en fait le cadeau merveilleux. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à dans un mois.